Europe Matin.
Fanny Marceau et Omblin Roche.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Quel plaisir de vous retrouver ce jeudi férié. Le début pour vous, on l'espère, du pont de l'Ascension. Nous, on reste ouverts, oui. On reste à vos côtés. Et voilà comment on vous souhaite un bon début de matinée.
Voilà, on n'a pas trouvé mieux hein, que la voix de Lenny Kravitz au réveil et on en profite pour lui souhaiter un très bon anniversaire. Il fête ses 58 ans aujourd'hui. Dans l'actualité, Fanny, ce 26 mai.
Le deuil américain, un de plus après la fusillade qui a fait 22 morts, dont 19 enfants dans une petite ville du Texas.
When are we gonna do something?
Maintenant, nous avons des enfants tués à l'école. Quand allons-nous faire quelque chose? La colère de Steve Kerr, l'entraîneur de l'équipe de basket des Golden State Warriors, hier traduit le ras-le-bol de nombreux Américains. Depuis le début de l'année, il y a eu 213 fusillades de masse comme celle-ci aux États-Unis.
L'American Nightmare, le cauchemar américain qui relance forcément, comme à chaque fois, le débat sur la libre circulation des armes.
Et le contrôle des antécédents judiciaires et psychologiques des acheteurs au pays de Billy the Kid et Butch Cassidy. N'importe qui peut s'acheter une arme. Pourtant, il y a bien un projet de loi voté à la Chambre des représentants, bloqué au Sénat depuis plus d'un an. Décryptage à 6h10 avec Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président de l'association France-Amérique. Et puis, on va prendre la direction des Bouches-du-Rhône où a été détectée une espèce de frelon inconnue chez nous.
Oui, après l'arrivée du frelon asiatique en France il y a 20 ans, c'est au tour d'une autre espèce invasive à faire son entrée dans l'Hexagone. Il s'agit du frelon oriental, plus invasif encore, avec une grande capacité de reproduction.
Et ce frelon, on va y arriver. Oriental se montre particulièrement agressif envers les abeilles.
Oui, effectivement, c'est ce qui inquiète les scientifiques et les apiculteurs. On en parlera à 5h45 avec l'entomologiste Gérard Philippi.
Et on terminera avec votre partition, Emblin.
Et avec le chef-d'œuvre psychédélique des Beatles. Le groupe s'imagine être une fanfare et sort Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, premier album concept de l'histoire du rock dans la partition à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme, on commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Fanny, bonjour Omblin.
Bonjour.
Alors comment s'annonce ce jeudi de l'Ascension ?
Eh bien, il va falloir être encore un peu patient avant de voir le grand soleil. Aujourd'hui, c'est assez mitigé. On a beaucoup de nuages sur une grande partie du pays. Toute la moitié nord est concernée par un plafond gris ce matin. Ça va jusqu'au sud-ouest, hein, en passant par le centre et l'Auvergne. Des nuages très épais, mais visiblement sans pluie. La journée, elle commence sous le soleil pour le quart sud-est, hein, entre les Alpes et la Méditerranée. C'est très agréable, avec tout de même du mistral dans la vallée du Rhône, jusqu'à 70 km/h. Cet après-midi, le ciel reste très couvert entre la Normandie et la Bretagne. Des Landes aux Pyrénées aussi, le gris domine. Et partout ailleurs, on a une alternance de nuages et d'éclaircies avec un risque d'averse sur le Var. Les températures, 6 à Aurillac ce matin, 9 à Brive, 13 à Paris et Lyon et jusqu'à 19 à Bastia. Cet après-midi, c'est stationnaire comme hier. 17 à Cherbourg, 20 à Biarritz, 23 à Paris, 27 à Nice, 29 à Aix-en-Provence et 30 degrés à Montpellier. Dans le sud, ça grimpe.
Merci Anissa. Très bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h. L'émotion, les larmes et l'incompréhension. Les habitants d'Uvalde au Texas se recueillent 24 heures après le massacre de 19 enfants dans une école, tandis que le reste du pays débat sur les armes. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial européen. À l'heure des départs en week-end de l'Ascension, un projet qui fait débat, le gouvernement envisage d'en finir avec les retraits de points pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h. Vous allez l'entendre, tout le monde n'est pas d'accord. Et puis Europe 1, bien sûr, radio officielle de Roland-Garros, honneur aux dames dans ce journal avec Alizée Cornet. En piste aujourd'hui pour le second tour, la tenniswoman est désormais romancière, se rapproche d'un record historique qu'elle compte bien battre.
Europe Matin.
Omblin Roche et Fanny Marceau.
Et le journal, c'est avec Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. 24 heures après, l'émotion ne retombe pas dans le Texas où 19 enfants ont été tués dans leur école par un jeune homme de 18 ans. Sur place, à Uvalde, les habitants se recueillent, partagés entre incompréhension, colère, tristesse. Le reportage de notre envoyé spécial européen, Aviv Afrid.
Un violon qui résonne, des larmes qui coulent, Uvalde se recueille et pleure ses morts. Dans la salle qui accueille d'habitude les rodéos, des milliers de personnes sont venues communier, prier ensemble.
Nous prions pour notre communauté, pour nos enfants qui ont été affectés, et toutes les familles de cette communauté.
Colin Jeziorski serre très fort contre elle son fils Ilai, qui n'a que 4 ans. Au lendemain du massacre, qui a tué 19 enfants, elle ne pouvait pas imaginer ne pas venir avec le reste de la ville.
En arrivant ici, j'avais juste envie de pleurer. Je crois que toute la ville est ici. C'est beau de voir les gens qui se soutiennent, mais c'est dur, vraiment dur.
Dans les gradins, il y a des enfants, des personnes âgées, des élèves du lycée voisin qui arborent les couleurs de leur école. L'atmosphère est pesante, surréaliste.
Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Vous voyez ça à la télé, mais quand ça vous frappe, c'est dur.
Toute la ville d'Uvalde est en deuil. Le massacre laissera sans doute une trace indélébile sur la petite ville. À Uvalde, Aviva Fried, Europe 1.
Et depuis ce drame, le débat sur les armes est relancé. Le puissant lobby NRA s'est dédouané hier de toute responsabilité et dénonce l'acte d'un criminel isolé et dérangé juste avant son assemblée annuelle prévue au Texas. Donald Trump y prendra la parole demain.
Retour en France. Sur les routes, c'est le premier gros week-end de l'année. 4 millions d'automobilistes attendus chaque jour par Vinci Autoroute pour ce pont de l'Ascension. C'est deux fois plus qu'en temps normal.
Et comme hier, bison futé, hisse le drapeau rouge sur toute la France dans le sens des départs. Les plus grosses difficultés sont attendues dès le début d'après-midi.
Et des bouchons donc qui nous empêcheront peut-être d'avoir le pied lourd sur la pédale d'accélérateur. Même si, dans les prochains mois, les radars pourraient beaucoup moins flasher.
On vous l'annonçait hier sur Europe 1. Le ministère de l'Intérieur envisage de mettre fin au retrait de points pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h. Mauvaise nouvelle pour Anne Lavaux, déléguée générale de l'association Prévention Routière. Cela pourrait avoir un impact négatif sur notre comportement au volant.
Ça envoie un message de laxisme de manière générale, c'est-à-dire que les gens vont considérer qu'ils vont pouvoir rouler plus vite. Les vitesses maximales autorisées, c'est quelque part une sorte de béquille mentale qui vous permet de vous dire, eh bien, si on me dit qu'à cet endroit-là, il faut conduire à 60 km/h, par exemple, ça veut dire que j'arrive dans une zone où peut-être il y a des virages dangereux, où l'environnement nécessite que j'abaisse ma vitesse. Outrepasser ces vitesses, c'est prendre un risque, c'est prendre le risque de ne pas avoir une conduite adaptée à l'environnement.
Cette crainte, Yves Cara ne la partage pas. Pour le porte-parole de l'association Automobile Club, ça ne changera pas notre manière de conduire.
Je pense pas que ça change le comportement des Français. Vous savez, j'ai pas l'impression que les Français sont des fous au volant, quoi. Et ceux qui sont fous et qui sont dangereux, c'est parce qu'ils ont bu, c'est parce qu'ils ont pris de la drogue, c'est parce qu'ils roulent trop vite sous la pluie, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne vitesse et le bon comportement adapté aux circonstances. Mais dans l'ensemble, je nous trouve tout à fait raisonnable et je ne pense pas que ces 5 km/h vont créer un sentiment d'impunité qui va faire que tout à coup, on pourra rouler à toutes les vitesses qu'on veut. Parce que je rappelle quand même qu'on paiera quand même l'amende. Hein.
Des propos recueillis par Guillaume Dominguez pour Europe 1. Et pour bien se rendre compte, en 2020, les petits excès de vitesse de moins de 5 km/h représentaient plus de la moitié des infractions de ce type.
Et l'autre piste du ministère de l'Intérieur, totalement numériser nos permis de conduire et cartes grises d'ici un an et demi, deux ans.
À noter également Elisabeth Borne, la première ministre, réunit le gouvernement demain matin à Matignon. Objectif, définir la feuille de route de chaque ministre et partager, je cite, la méthode gouvernementale.
5h05 sur Europe. Un Ave César.
Deux mots utilisés par la défense ukrainienne pour annoncer en photo l'arrivée d'une douzaine d'armes fournies par la France, déjà en service dans le Donbass. William Molinier, leur nom, César.
Pour l'instant, selon nos informations, ils ont été remis fin avril aux autorités ukrainiennes. Le temps qu'ils soient acheminés jusque sur le front sans se faire repérer, ils sont apparus en début de semaine dans des vidéos sur les réseaux sociaux qui ont été relayées par des soldats ukrainiens. Les canons César sont des pièces d'artillerie ultra modernes, des canons de 155 mm qui peuvent tirer jusqu'à 40 km, 6 obus par minute tout en étant très précis. La force du César est qu'il est monté sur des véhicules très légers, ce qui apporte de la mobilité. Une fois que les Ukrainiens ont tiré, ils peuvent immédiatement quitter leur position qui est menacée à son tour par des tirs de riposte de l'armée russe. 40 soldats ukrainiens, des officiers, des sous-officiers ont été formés en France sur le camp de Canjuers dans le Var pour maîtriser cette arme. Une arme qui a un coût. Environ 5 millions d'euros par unité.
Merci William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1.
On part à Roland-Garros, Europe 1 officiel, radio officielle du tournoi Porte d'Auteuil.
Et hier, des confitures pour les trois Français en lice au second tour qui se sont fait sortir. Corentin Moutet, Richard Gasquet, Grégoire Barrère. Chez les dames, en revanche, après avoir battu la tenante du titre au premier tour, Diane Parry a réitéré l'exploit avec une belle victoire face à Camila Osorio en 2-7, 6-3, 6-3.
En piste aujourd'hui, Alizé Élisée Cornet.
À 32 ans, elle joue ce soir contre la gagnante de 2017, Yelena Ostapenko. Élisée Cornet, qui vient de publier son premier roman, vise un record féminin cette année, celui du nombre de participations consécutives à des tournois du Grand Chelem. Axel May.
Élisée Cornet est une boulimique de grand chelem. À Paris, la niçoise dispute son 61e à la suite. Et si elle enchaîne Wimbledon et l'US Open, elle aura dépassé en fin de saison le record de participation consécutive aux quatre tournois majeurs détenus par une japonaise. Mais son jardin secret, c'est l'écriture. Après un premier livre racontant son quotidien de tenniswoman, la récente quart de finaliste de l'Open d'Australie vient de publier un roman inspiré de son histoire familiale.
C'est super bien reçu par le monde du tennis. En fait, ils sont plutôt admiratifs parce qu'ils savent à quel point la vie d'un joueur de tennis est chronophage, à quel point ça demande des sacrifices, de la rigueur, de la discipline. Et en fait, ils se demandent juste quand est-ce que j'ai eu le temps d'écrire ce livre. Et même moi, je ne sais pas trop comment j'ai fait. Donc, c'est un peu un miracle, ce livre.
Élisée Cornet confie avoir déjà terminé un deuxième roman. Et l'ex numéro 11 mondial le sait, elle aura bientôt davantage de temps. Sa carrière touche à sa fin. Elle pourrait arrêter dans un an à Roland-Garros, à la manière d'un Joe Wilfried Tsonga.
Axel May du service des sports d'Europe 1. Autre française sur les cours aujourd'hui, Léolia Jean-Jean affronte Carolina Pliskova. Caroline Garcia sera quant à elle opposée à Madison Keys.
Merci beaucoup Alban Leprince pour le journal.
Il est 5h08 et on passe aux courses. Le pari gagnant, le Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et mon pari gagnant sera le 302 Zawaya. Après avoir radicalement échoué pour sa première incursion parisienne le 16 mai à Chantilly, il a rassuré son entourage dès sa sortie suivante en concluant bon second le 24 avril à Toulouse en étant battu que sur le poteau après avoir longtemps fait illusion pour la victoire. Estimé par son entraîneur palois François Rohaut, je sais qu'il effectuera une nouvelle fois un long déplacement depuis le sud-ouest avec la ferme intention de remporter cette liste de race. Alors notez bien, pour ce soir à Paris-Longchamp, réunion 1 dans la troisième course, le numéro 2, Zawaya.
Merci Thierry Léger, vous revenez avec vos pronostics du Quintet dans une demi-heure et dans un instant le pressing.
Europe 1.
Fanny Marceau et Omblin Roche.
Et nous sommes rejoints par Martin Lange pour le pressing. Bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Fanny, bonjour à tous.
Bonjour Martin. On commence avec les unes de vos journaux. Le burkini en sursis à Grenoble. Le conseil municipal a autorisé le maillot de bain intégral, on s'en souvient, dans ses piscines. Décision controversée et désormais suspendue depuis hier soir par le tribunal administratif. Après Grenoble, le Figaro enquête ce matin sur les militants du burkini, l'association Alliance Citoyenne notamment, qui soutenait le projet. Mélenchon, Macron, les meilleurs ennemis à moins de trois semaines du premier tour des élections législatives. Libération confronte deux visions de la France, deux poids lourds, le président de la République et celui qui aspire à devenir son premier ministre. Deux hommes qui s'estiment, chacun reconnaissant en l'autre un animal politique à sa mesure, titre le journal. Et puis la forêt en ville, à la une de la Croix, où comment les plantations d'arbres se multiplient dans les métropoles pour lutter contre les effets des vagues de chaleur. Voilà pour les unes. Omblin, à vous. Quel article avez-vous sélectionné ce matin ?
La technologie avance et permet de formidables découvertes sur notre bonne vieille terre. Des nouveaux outils ont permis de révéler l'existence de sites qui prouvent à quel point, il y a plusieurs siècles, la forêt amazonienne était occupée par l'homme, par des civilisations anciennes. L'étude a été publiée dans la revue Nature. Elle est relayée ce matin par le journal Le Figaro. L'Amazonie étant peu habitée aujourd'hui, les archéologues pensaient que ça avait été toujours le cas. Eh bien, ces nouvelles observations prouvent le contraire. Dans certains travaux, on parle même de millions d'individus présents entre le 6e et le 15e siècle, avant l'arrivée des conquistadors. On va y revenir. Alors, qu'est-ce que ces nouveaux outils ont mis à jour ? Eh bien, depuis un avion, une sorte de radar sophistiqué a cartographié des sites, jusqu'alors inconnus et invisibles à l'œil nu. Il faut imaginer des pyramides de terre et de bois, des canaux, des routes, et même un système d'irrigation agricole, des structures bâties avec des composants périssables, qui ne laissent donc pas de traces, mais qui ont profondément transformé la forêt. Ces observations prouvent donc la présence de sociétés complexes, avec de nombreuses connexions entre les groupes, sans doute jusqu'à la côte pacifique. Alors évidemment, on ne sait rien sur le mode de vie de ces groupes, sur cette civilisation d'Amazonie, son fonctionnement, puisqu'il n'existe aucune trace écrite. Cependant, la forte tradition orale a permis la transmission jusqu'à nous des mythes et des légendes. Cela fait dire aux archéologues qu'a priori, ces populations étaient moins violentes que les Aztèques et les Mayas, ne pratiquaient pas ou dans une moindre mesure, les rituels sacrificiels, hein, vous savez, et ne faisaient pas la guerre. Malheureusement, l'arrivée des Européens au 15e et au 16e siècle a provoqué leur perte et des populations entières ont disparu en à peine deux générations. Ce ne serait pas dû à des éliminations militaires volontaires, mais à cause des virus.
Des maladies.
Ouais. Eh oui, comme la rougeole ou la grippe. Des virus importés par les Espagnols et qui se sont transmis d'un individu à l'autre, d'un groupe à l'autre, puisqu'on estime que ces sociétés étaient reliées entre elles jusqu'aux Andes, hein, comme je vous le disais un petit peu plus tôt. Une civilisation mystérieuse et inconnue d'Amazonie se dévoile depuis le ciel, c'est-à-dire dans le Figaro.
Merci beaucoup, Ombline, c'est passionnant. Martin, on vous écoute.
Oui, question un peu personnelle ce matin, Ombline, Fanny, est-ce que vous aimez le fromage qui pue?
Alors oui. Mais oui, mais ça, parce que ça, je suis pas d'accord avec ce terme.
Le camembert, le maroilles,
les poisses. Mais ça sent pas mauvais, ça sent
le fromage.
Qui aurait passé un peu trop de temps au soleil, hein, ça
oui,
fait envie, n'est-ce
pas?
Voilà. Normal, vous êtes française, enfin en tout cas.
Oui.
Pour une grande majorité d'entre nous. Mais ailleurs dans le monde, les fromages odorants n'attirent pas, ils sont même souvent interdits. Aux États-Unis, par exemple, pas de fromage au lait cru, que du pasteurisé avec du lait chauffé pour éviter tout risque sanitaire. Mais aussi, malheureusement, en tout cas pour certains, ces odeurs, disons, originales. Idem en Australie, où je vous emmène ce matin, direction Yering, petit village de la banlieue de Victoria, où un fromager défraie la chronique. Le fabricant s'appelle Yarra Valley Daily. Il produit toutes sortes de fromage, de la feta au fromage de chèvre, ça vous tente comme ça au petit déjeuner.
Évidemment.
Sauf que ces merveilleux fromages puent. Ah. C'est les riverains qui s'en sont pleins. Ils ont même alerté l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, qui s'est déplacée pour constater effectivement une odeur déraisonnable et suffisamment forte pour causer de l'inconfort aux habitants.
Alors c'est vrai que là, ça nous fait rire et on s'amuse depuis quelques secondes, mais pas le propriétaire de la fromagerie qui, lui, a écopé d'une très lourde amende.
Oui, plus de 9 000 $ australiens, 6 000 euros, ça fait cher. Le fromage qui pue. En fait, Yarra Valley Daily était déjà dans le viseur des autorités sanitaires l'année dernière. Lors d'une première visite, l'EPA avait averti le fromager, il faut faire quelque chose. Sauf que 6 mois plus tard, rien n'a été fait, pas d'amélioration du système de traitement des eaux usées qui aurait permis, selon les spécialistes, que l'odeur n'atteigne pas les propriétés environnantes. Il faudra donc passer à la caisse et régler au plus vite cette affaire d'odeur inconfortable.
Du bon lait de vache, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bon fromage.
En Australie, un producteur se prend 9 000 $ d'amende pour un fromage qui pue trop. C'est à retrouver sur le site du Guardian. C'est une affaire hautement importante. Et en français, sur le site Slate.
Et Martin, d'ailleurs, à ce propos, une amie à vous a un petit mot à vous dire. Voilà. Je ne sais pas si elle est australienne.
Merci Marguerite.
Ça marche dans toutes les langues.
C'est vrai.
Merci Martin. Je vais conclure ce pressing avec un cadeau. Pas du fromage, non, mais un cadeau qui ne coûte pas grand-chose et qui a une grande valeur. Le collier de nouilles. Il s'accompagne. Oui, c'est vrai, on l'aime beaucoup. Il s'accompagne souvent d'une carte bricolée, de quelques mots d'amour, d'un poème, d'une chanson, d'un câlin, d'un
bisou.
C'est
pour dimanche.
Mais oui, et ça donne de la couleur à la fête des mères. Elle aura lieu dimanche, oui, effectivement. Sauf que.
Vos enfants n'auront pas de cadeaux de fête des mères cette année.
Est-ce que ça va être comme ça aussi pour la fête des pères?
Ah bah oui,
mais
on s'en fout de la fête des pères.
C'était de la fête des pères. Extrait du film La fête des mères en 2018. Alors ni fête des mères ni fête des pères, le rituel, c'est vrai, tend à disparaître. Et pas parce qu'on s'en fout, mais parce que la société évolue et le modèle familial avec. En 2022, à la maison, on n'a pas forcément un papa et une maman. On a parfois deux papas ou deux mamans, parfois aussi un parent ici et puis un autre ailleurs et qui ne s'entendent pas toujours d'ailleurs. Et puis bien sûr, il y a ces enfants dont la mère ou le père n'est plus de ce monde. J'ai vu plusieurs fois, nous dit la directrice d'une école dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin, des enfants en larmes au moment de confectionner le cadeau de fête des mères, surtout quand les camarades qui ne sont pas mal intentionnés posent des questions. Pourquoi t'as pas de maman? Comment elle est morte? Bah oui, difficile pour un enfant de faire face au deuil et à ses échos. Mais alors faut-il pour autant priver les enfants de cadeaux pour leur maman, pour ceux qui en ont? Alors c'est vrai, ce n'est pas au programme scolaire, mais c'est une tradition qu'on attend quand on devient maman d'ailleurs. Et puis, il faut les voir nos bouts de chou, le sourire jusqu'aux oreilles, le trac presque en donnant à maman ce cadeau où ils ont mis tout leur cœur. Faudrait-il alors les priver de ce bonheur au nom des autres? Mais certaines écoles ont opté pour cette solution. Tout supprimé, point. Pas de cadeau. Mais dans d'autres établissements, on a trouvé la parade. On va la changer, le nom. On va changer le nom de cette fête. Pas la fête des mères, pas la fête des pères, mais celle des gens qu'on aime. Un cadeau pour celui ou celle qui nous épaule, qui nous console, qui nous aime, qui nous accompagne. Et c'est important, car cette fête, elle est sacrée. Pour les mamans, certaines d'ailleurs sont très attachées à cette tradition, mais aussi pour les enfants, même ceux qui n'ont plus de mère.
Des câlins, il en voudrait tellement, ne serait-ce qu'un parent. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait.
le portrait Calogero. Continuer à donner une place aux personnes disparues est important à travers des moments clés. C'est ce qu'explique une spécialiste dans cet article du Parisien. Certains iront même, dit-elle, déposer le petit cadeau qu'ils ont fait eux-mêmes sur une tombe. Car ce qui compte dimanche, c'est de dire « je t'aime » à qui on voudra, comme on voudra, tant que c'est de l'amour et qu'il ne fait naître que des sourires sur les visages de nos enfants. Et si la fête des mères devenait la fête des gens qu'on aime, c'est à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin.
La fête des gens qu'on aime, c'est en plus c'est extrêmement poétique.
C'est très joli.
Oui. Merci beaucoup Fanny et merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Fanny Marceau et Omblin Roche.
5h18 sur Europe 1, les principaux titres de ce jeudi. C'est le journal permanent, Alban Le Prince.
Et vous serez 4 millions sur les routes chaque jour pour le pont de l'Ascension, selon Vinci Autoroute. C'est deux fois plus que d'habitude pour le premier gros week-end de l'année. Bison Futé voit d'ailleurs une nouvelle fois la journée rouge dans le sens des départs dans toute la France. L'esprit déjà en vacances, on peut parfois avoir le pied lourd. Le ministère de l'Intérieur réfléchit à supprimer le retrait de points pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h, qui représente plus de la moitié des infractions de ce type. Et c'est justement pour définir la feuille de route de chaque ministre qu'Elisabeth Borne, la première ministre, reçoit demain matin à Matignon l'ensemble du gouvernement. Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, fait appel devant le Conseil d'État après la décision du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'autorisation du burkini dans les piscines municipales.
On passe à présent aux initiatives en France, la chronique qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger le pays. Et ce matin, eh bien, on enfourche nos vélos sans les petits trous.
Bonjour Franck Caudrelier.
Bonjour Fanny.
Vous êtes le fondateur de Gibus Cycle. Votre entreprise est française. Elle a développé la gamme de vélos qui devrait redonner à nos enfants le goût de pédaler et qui dit notamment adieu aux roulettes pour apprendre. Bon alors, comment on fait sans les petits trous ?
C'est une très bonne question et faites bien de vous la poser, puisque ce qui est ancré dans nos consciences, c'est d'apprendre le vélo quand on est enfant avec des petits trous. On a appris comme ça, nos parents ont appris comme ça, nos grands-parents également. Pourtant, on a appris comme ça parce qu'à l'époque, les vélos étaient lourds. Et aujourd'hui, notre gamme de vélos Gibus Cycle sont des vélos qui sont ultra légers, qui vont, à travers cette légèreté, simplifier l'apprentissage et la pratique chez l'enfant comme jamais.
Au cœur de votre projet, il y a une ergothérapeute et une ambition qui va au-delà de juste deux roues et une selle. Vous voulez imaginer la génération vélo. À quoi elle ressemble, cette génération vélo ?
Effectivement, au-delà de la légèreté de nos vélos, le deuxième avantage, c'est l'ergonomie. On a travaillé avec une ergothérapeute spécialisée dans le cycle qui s'appelle Camille Péchou, qui nous a aidés à valider et invalider chaque composant du vélo pour qu'il soit vraiment pensé et conçu pour être adapté à la morphologie et à la physiologie de l'enfant. En d'autres termes, des petits leviers adaptés à leurs petites mains, une selle qui est adaptée à la largeur de leur hanche, etc., etc. Ça va également simplifier l'apprentissage et la pratique chez l'enfant. Donc ça, c'est notre deuxième point. Et le troisième, c'est la durabilité. On sait que les enfants grandissent vite. Il faut en moyenne changer de vélo chez l'enfant tous les 2 ans, 2 ans et demi, entre l'âge de 18 mois jusqu'à 12-13 ans, ce qui nous amène à beaucoup, beaucoup de vélos et peut représenter un certain budget. Donc pour compenser cela, on a développé un programme qu'on appelle le Kids Vélo Club qui va permettre aux parents d'acheter un vélo chez Gibus Cycle en ligne sur notre site, gibuscycle.com, et dès leur second achat de vélo, donc le vélo dès qu'il devient trop petit pour l'enfant, on propose de le récupérer et on offre une remise sur l'achat du vélo de la taille suivante. Ce vélo, nous, on le remet en état en changeant les pièces d'usure, puis ensuite on le revend en ligne sur notre site toujours, à moindre prix, puisqu'il sera en seconde main. Voire en troisième, quatrième main pour la suite. L'idée est de créer un cercle vertueux du vélo enfant, d'autant plus que nos vélos sont conçus pour être robustes, avec des pièces de qualité qui vont permettre de conserver le vélo beaucoup plus longtemps dans un état très très bon.
Et alors, combien coûte le vélo neuf, la première main ?
Aujourd'hui, on a une gamme de 3 vélos sur notre site. On commence avec la draisienne, qui sont les petits vélos sans roues, sur lesquels on peut commencer dès 18 mois, qui sont démocratisés maintenant depuis une quinzaine d'années, qui permettent à l'enfant d'apprendre l'équilibre hyper facilement. Et c'est vraiment ça le point numéro 1 chez l'enfant, c'est l'équilibre, d'où l'objectif aussi d'avoir des vélos qui sont ultra légers. Et donc la question des petits trous tout à l'heure, où dès qu'on va mettre des petits trous, on va les remettre en situation de stabilité. Donc cette petite draisienne, on commence à 195 €. Puis ensuite, on a le vélo 14 pouces, qui est un vélo sur lequel on peut commencer dès 2 ans et demi chez nous, qui est un vélo qu'on a breveté, qui est vraiment une innovation majeure. Il est unique au monde. Il va permettre de faire mi-draisienne, mi-vélo. En avançant le pédalier et en baissant assez bas la selle, on va permettre à des enfants dès 2 ans et demi de pouvoir pédaler, apprendre à pédaler en moins de 20 minutes. Car l'enfant ne tombe plus sur ce vélo, quand bien même il n'y a pas de petit trou, puisqu'il peut se rattraper à tout moment. Et c'est là la clé. Quand il sait qu'il ne va pas tomber, il va persévérer et il va apprendre très vite sur ce vélo. Le 14 pouces, on le vend à 340 €. Et ensuite, on a le 16 pouces, à partir de 4 ans environ, qui, lui, est vendu à 360 € et qui reste toujours aussi léger, ergonomique et robuste.
Il y a une question sur l'ergonomie, puisque vous parliez de révolution. On a changé le poids du vélo, la façon dont est pensée la selle. Comment étaient faits les vélos jusque-là? On n'avait pas pensé avant à la taille de hanche de nos enfants, à leurs petites mains?
Si, mais ce qui est encore le cas aujourd'hui, la majorité des vélos enfants vendus sur le marché sont conçus par le prix et non pas par le besoin de nos enfants. Aujourd'hui, quand on achète un vélo enfant à 150 €, qui reste déjà une somme qu'on estime déjà élevée, c'est problématique puisque à ce prix-là, il est difficile de sortir un vélo léger avec des composants dont la morphologie a été étudiée. Donc nous, chez Gibus Cycle, on n'a pas pris le point de départ et non pas la conception par le prix, mais par le besoin de l'enfant. Ce qui nous amène aujourd'hui à des vélos qui sont, on en est conscient, un peu plus chers que ce qui est vendu sur le marché, mais qui va répondre vraiment aux besoins de l'enfant. Et c'est vraiment là la clé, c'est qu'un enfant, plus tôt il apprend sur le vélo, plus il pratique tôt et plus il va pratiquer au quotidien, pour aller à la crèche, pour aller à l'école, pour aller chercher le pain. Ça va lui permettre en fait, de développer des capacités psychomotrices assez vite. Et tout cela, ce sera un réflexe pour demain. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui, le déplacement des adultes en milieu urbain ou périurbain, avec beaucoup de circulation, avec un environnement très dense, qui peut être source de peur chez de nombreuses personnes. Nous, on est convaincus que si on peut aider à développer cette génération vélo le plus tôt possible, ce seront des enfants qui demain pourront se déplacer beaucoup plus facilement en vélo.
Allons tous à vélo. Merci Franck Caudrelier, fondateur de Gibus Cycle, avec nous sur Europe 1 ce matin pour la future génération vélo. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup Fanny pour cette interview.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
5h28, bon début de matinée sur Europe 1, à suivre le journal de Lénaïde Mounier. Et puis on parle de cette nouvelle espèce de frelon qui a fait son entrée en France il y a quelques mois du côté de Marseille.
Oui, c'est en tout cas dans cette région que ce frelon oriental a été détecté en premier. Et comme son cousin, le frelon asiatique, il présente une menace sérieuse pour les abeilles. Les deux nids repérés ont depuis été neutralisés, mais les scientifiques se montrent prudents car le frelon oriental est connu pour sa grande capacité d'expansion. Avec les beaux jours qui s'installent, la surveillance, c'est donc accru. On en parlera dans un quart d'heure avec l'entomologiste Gérard Philippi.
Et juste après, on parlera des classements français des vins. Comment s'y retrouver entre cru classé, grand cru ou premier cru?
Les conseils d'Olivier Pouls à 5h50.
Mais d'abord la météo, Anissa Dadi, on va pas avoir besoin de lunettes de soleil hein,
ah
aujourd'hui.
Ah non, pas franchement, là il va falloir les laisser à la maison, on va s'en servir ce week-end, hein, je vous rassure. Mais aujourd'hui il va falloir être patient parce que sur les trois quarts de la France, nous avons des nuages. Et quand je vous parle de nuages, on a des bons gros nuages bien gris qui vont bien masquer le soleil sur la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, les Landes, le Pays Basque. Voilà, ce sont les régions les plus touchées par ces nuages très gris. Sur les Hauts-de-France, la région parisienne, le Grand Est, le Centre, l'Auvergne, le Limousin, là c'est très gris ce matin. Et puis les éclaircies reviendront dans l'après-midi. On a un ciel vraiment sur toutes ces régions qui alternent entre nuages et éclaircies. Dans le sud-est, bah là, rien à signaler. Hein. Entre les Alpes et la Méditerranée, c'est très dégagé, très ensoleillé, très agréable, avec toujours du mistral et de la tramontagne. Et puis un petit risque d'averse sur le Var cet après-midi et l'arrière-pays provençal. 8 à 19 degrés ce matin, c'est assez stable par rapport à hier. Hein. 8 à Rodez, 11 à Strasbourg, 13 pour Paris et 19 à Nice. Cet après-midi, 16 à Boulogne-sur-Mer, 18 à Brest, c'est dans le nord-ouest qui fait le plus frais, 21 à Lille et Metz, 23 à Paris et 30 à Montpellier.
Merci Anissa. Bon réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30, c'est l'heure du journal.
Europe 1.
Le pont de l'Ascension vous donne des envies d'ailleurs. Les hôtels et les campings font le plein. C'est bon pour le secteur du tourisme, vous l'entendrez. Des bouquets de fleurs, des peluches, des dessins. Les hommages se poursuivent à l'école d'Ouvaldé où 19 élèves et 2 enseignants ont été abattus. Et cette question, les politiques américains ont-ils les coudées franches pour limiter le port d'armes? La réponse de notre envoyé spécial, Aviva Fried, dans un instant. Et puis une femme arrachée à un compagnon violent grâce au mot SOS griffonné sur une ordonnance. Témoignage dans ce journal d'une pharmacienne qui a su déceler ce signal d'alarme.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
Et le journal de 5h30 vous est présenté par Lénaïg Monnier. Bonjour Lénaïg.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous faites peut-être partie de ces chanceux, de ces nombreux Français qui ont choisi de partir quelques jours pour ce long week-end de l'Ascension. C'est l'un des seuls ponts cette année. Maud Descamps, ça va se bousculer ?
En effet, avec des premiers 8 mai qui sont tombés un dimanche, le week-end de l'Ascension était très attendu. Destination le bord de mer, essentiellement, pour ce pont de 4 jours. Et des réservations au-dessus des niveaux de 2019, comme l'observe Xavier Rousselou, porte-parole de la plateforme Abritel.
Les réservations sont même supérieures à celles qu'elles étaient en 2019, puisqu'elles sont en augmentation là de près de 20%.
Même observation chez Gîtes de France avec une année record pour ce week-end de l'Ascension. Un taux de réservation de 88%, c'est 4 points de plus que l'an dernier, 7 points de plus qu'en 2019. Et un panier moyen autour de 300 à 500 euros pour 4 nuits. Une tendance qu'observent aussi les professionnels du camping qui font carton plein ce week-end, constate Jérôme Mercier, directeur général de camping.com.
On constate un taux d'occupation de 95% dans les campings français. C'est une très belle performance avec 50% de réservations en plus par rapport à 2021.
Des Français qui privilégient des destinations assez proches de chez eux, 2 à 3 heures de voyage en moyenne, en train ou en voiture.
Maud Descamps pour Europe 1, et puisque vous êtes nombreux à partir, armez-vous de patience. Un bison futé classe encore rouge la journée dans le sens des départs sur tout le territoire. Vaut mieux quitter l'Île-de-France avant 7h ce matin, 9h pour les autres grandes villes. Et dimanche, ce sera pire, noir dans le sens des retours.
D'ailleurs, si vous nous écoutez en ce moment en voiture, voilà qui va vous intéresser. Vous allez peut-être garder vos points de permis plus longtemps.
Oui, Gérald Darmanin veut assouplir les sanctions pour les petits excès de vitesse, ceux qui sont de moins de 5 km/h au-dessus de la limite autorisée. Souvent, ce sont les infractions qui agacent le plus. Elles sont liées souvent à une erreur d'inattention. En gros, quand vous êtes flashé, c'est là que vous vous apercevez qu'il fallait lever le pied.
La politique, l'arrivée des insoumis à des postes clés de l'Assemblée nationale inquiète déjà la majorité.
Renaissance est en bonne voie, d'après les sondages, de conserver sa majorité à l'Assemblée nationale, mais son avance se réduit sous l'effet de l'union de la gauche. Jacques Serret, ce qui donne des sueurs froides à la majorité, c'est de voir un insoumis à la tête de la très stratégique commission des finances.
Oui, car depuis 2007, ce poste prestigieux du Palais Bourbon revient automatiquement à un député de l'opposition. Durant le précédent mandat d'Emmanuel Macron, il était occupé par le républicain Éric Woerth. Et si le député de l'Oise a certes depuis rejoint les rangs de la majorité, son poste de président de la Commission des Finances sera de nouveau soumis au vote au lendemain du second tour des législatives. Si la NUPES devenait le premier groupe d'opposition à l'Assemblée, un lieutenant de Jean-Luc Mélenchon serait alors à même de prétendre à cette fonction stratégique, une fonction qui offre le privilège d'avoir accès à la levée du secret fiscal pour les entreprises comme pour les particuliers ou encore d'aller faire des contrôles dans n'importe quelle administration. Ce serait un cauchemar, lâche un conseiller ministériel. Mais pour éviter ce scénario, une piste est évoquée côté marcheur, faire voter les parlementaires de la majorité de nouveau en faveur d'un député Les Républicains, au risque de rendre foudrage les élus de l'Alliance de gauche.
Et Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Le burkini à Grenoble, c'est fini.
Oui, la justice a suspendu l'autorisation qui avait été votée par la mairie. Le tribunal administratif reproche à la majorité municipale d'avoir gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public. Éric Piolle, maire de Grenoble, a annoncé que la ville faisait appel.
Direction les États-Unis à présent, l'émotion ne retombe pas 24 heures après la tuerie au Texas.
21 morts, dont 19 enfants abattus alors qu'ils étaient à l'école. Les hommages se succèdent sur place où la visite de Joe Biden est attendue. Le temps est à l'émotion, mais déjà se pose la question de l'accès aux armes. Aviva Fried, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 au Texas. C'est aussi sociétal que politique, c'est ce que vous avez constaté. Les armes, c'est un sujet qui reste très, très sensible.
Oui, à chaque fois que j'ai essayé d'aborder la question des armes avec des habitants, ils m'ont tout simplement tourné le dos. C'est évidemment la tristesse qui explique cela, mais aussi le fait que nous soyons au Texas, l'État le plus attaché aux armes à feu, un État où la NRA est bien implantée, le lobby des armes qui se bat bec et ongles pour conserver son influence. Le groupe est l'un des lobbies les plus importants du pays. Il distribue très largement des financements de campagne aux divers candidats, environ 3 millions de dollars par an, sans compter les financements indirects via des groupes de campagne, financements qui seraient encore plus importants. En échange de quoi, les bénéficiaires des largesses du lobby des armes eh bien, défendent ses intérêts au Congrès. Parmi ceux qui reçoivent le plus d'argent de la NRA, on retrouve Ted Cruz, le sénateur du Texas, et la plupart des républicains les plus influents, ce qui explique pourquoi il est absolument impossible de faire passer la moindre législation restreignant un tant soit peu le port des armes.
Aviva Fried, envoyée spéciale d'Europe 1 au Texas.
Et à 6h10, le vice-président de l'association France-Amérique, Jean-Claude Beaujour, décryptera avec nous ce débat sur les armes aux États-Unis. 5h36, retour en France. Écoutez bien cette histoire, parce que parfois, de petits gestes ou un simple regard peuvent véritablement sauver une vie.
Le décor, une pharmacie près de Strasbourg. Une femme, accompagnée de son conjoint, entre, donne son ordonnance. Sur celle-ci, un petit mot griffonné, SOS. Ni une ni deux, Isabelle, la responsable de la pharmacie, comprend qu'elle a face à elle une victime de violence conjugale. La suite, c'est elle qui la raconte au micro Europe 1 de Mélina Fachin.
J'ai ma collègue qui vient dans mon bureau en me disant qu'elle a un sérieux doute sur l'ordonnance de la patiente qu'elle est en train de servir parce qu'il y a un petit mot qui est griffonné avec SOS que la patiente lui montre avec insistance. Elle est accompagnée d'un homme qui est comment ? Elle me dit bah, « il a l'air bizarre ». Dans le doute, j'appelle les secours quand même et ils me disent qu'on fasse notre possible pour garder les gens à l'officine et qu'ils arrivent tout de suite. Donc je descends. Et effectivement, je vois qu'elle me regarde avec insistance, mais vraiment un regard soutenu. Et puis on dit que ce serait peut-être bien de la faire passer à l'arrière de la boutique. Donc on invente une prise de mesure. Et là, effectivement, elle fond en larmes, elle tremble, elle est toute stressée. Elle nous dit qu'elle est enceinte, que son compagnon est violent, qu'il a tout cassé chez elle, qu'elle est désolée. Et après, quand la police est arrivée, nous, on s'est éclipsés. Après, on a repris notre travail et on a laissé la police faire le sien.
Voilà, incroyable témoignage recueilli par Mélina Fachin pour Europe 1. Le conjoint de cette femme a été placé en garde à vue. Et puis on rappelle que si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez à tout moment composer le 3919.
5h37, les sports. Fin de partie pour Richard Gasquet et Corentin Moutet, Roland Garros.
Oui, Gasquet le vétéran défait par Stéphane Corda. Il s'arrête au deuxième tour. Quant à Moutet, lui, il a perdu face à son idole, Raphaël Nadal. Une défaite en 3-7.
Et puis bien sûr, on rappelle que Europe 1 est la radio officielle de Roland Garros.
Absolument.
D'ailleurs, il y a un journal de Roland Garros à 8h30. Merci beaucoup Lénaïgue Monnier pour le journal.
Et ce sont les courses maintenant. Les pronostics du Quintet avec
Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Fanny, c'est en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à 20h15 que va se courir ce quintet. Une très belle liste de race qui réunira 14 chevaux âgés de 4 à 7 ans sur la distance de 1600 mètres avec deux solides favoris. Joe Français, le numéro 1, très convaincant lors de sa rentrée victorieuse après 7 mois d'absence le 21 avril sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, une piste sur laquelle il n'a encore jamais déçu, avec le Britannique Radobarg, le numéro 4, désormais entraîné par l'ex-crack jockey John Patrick Murtagh, qui effectuera le déplacement depuis les plaines du Curragh en Irlande, non sans avoir quelques certitudes. Derrière ces deux priorités, je vous propose les numéros 8, Bois d'Argent, d'une régularité de métronome, 5, Longvilliers, lui aussi irréprochable et qui s'adapte à tout, quel que soit l'état du terrain, et 12, Sky Power, auteur d'un dernier galop très prometteur le matin sur les pistes d'entraînement de Chantilly. Enfin, les numéros 9, Jerry, 7, We Ride the World et 14, Réchabar compléteront ma sélection. Mon pronostic, As, 4, 8, 5, 12, 9, 7 et 14.
Et on vous rappelle que ces pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où, à présent, les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Le 26 mai 1986, il y a 36 ans, s'évadait Michel Vaujour. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Fanny, bonjour Ambline.
Entre 1970 et 1995, le roi de l'évasion réalise une dizaine de tentatives et il en réussit 5. En 1986, c'est de la prison de la santé qu'il réussit à s'évader. C'est son évasion la plus spectaculaire.
Oui, à ce moment-là, Michel Vaujour fait du sport au milieu des autres prisonniers lorsqu'un hélicoptère apparaît dans le ciel parisien. Le voilà maintenant au-dessus de la cour de promenade. Il est 10h45. Un témoin raconte.
Il est resté, moi, à mon avis, hein, à peu près 2-3 minutes au maximum. Et de là, on l'a revu prendre de l'altitude avec un gars accroché à l'extérieur de l'hélicoptère et puis laissant tomber une arme à l'intérieur de la prison.
Michel Vaujour réceptionne un sac tombé de l'hélicoptère. En une seconde, il en sort un faux pistolet, une canne à pêche et une corde qu'il fixe en haut d'un mur. Il l'escalade avec son complice. Michel Vaujour est spécialiste des hold-up et des vols à main armée. Il a été condamné à 18 ans de prison. Il est détenu depuis 13 ans et déjà l'auteur de 4 tentatives d'évasion.
L'opération qui lui a permis de réussir ce matin était parfaitement organisée. Elle a duré moins de 5 minutes, puis l'hélicoptère a atterri quelques instants plus tard, vers 11h sur un terrain de football, en plein milieu de la cité universitaire internationale de Paris. Depuis, on est sans nouvelles de Michel Vaujour et de ses complices.
Au fil des heures, on a de plus en plus de détails. Laure, c'est une femme qui pilotait l'hélicoptère.
Oui, on découvre que c'est la femme de Michel Vaujour, Nadine, qui pilote. Elle a loué l'hélicoptère le matin même sous un faux nom, Léna Rigon. Elle prenait des cours de pilotage depuis 10 jours. L'homme qui lui a loué l'hélicoptère raconte.
On m'avait quand même posé la question la veille pour me demander si on pouvait retirer une porte à la machine pour faire des photographies.
Et vous aviez accepté ?
Non, je ne veux pas que mes machines volent porte ouverte, à moins que ce soit des pilotes professionnels de la maison.
Ça coûte combien une heure de vol ?
L'heure de vol sur l'appareil qu'elle a pris coûtait 2200 francs heure net. Elle nous avait payé jusqu'à maintenant. Je ne crois pas être payé sur ce vol-là.
Et en 2005, Michel Vaujour a raconté à Frédéric Taddeï sur Europe 1 que c'était sa plus belle évasion.
Nombre de vos braquages ont été commis avec des pistolets factices.
Avec des pistolets factices parce que c'était les premiers braquages, donc ça a commencé comme ça, naïvement quoi. C'était un jeu. Même pour l'opération de la santé, c'était les armes factices parce que...
Ça c'est parce que Nadine avait insisté, ce qu'on entend dans le film.
Ouais, il fallait pas qu'elle se retrouve dans la même situation que moi quoi. Et avec des armes, alors elle risquait très cher.
Après l'évasion de la prison de la santé, toutes les polices de France sont à ses trousses, bien sûr. Michel Vaujour part en cavale et il retournera en prison après un nouveau braquage.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. C'était le jour où sur Europe 1. Dans un instant, l'arrivée du frelon oriental en France qui inquiète les entomologistes et les apiculteurs. A tout de suite.
Fanny Marceau et Omblin Roche.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h43 sur Europe 1. Bon réveil. C'est une découverte inquiétante qui a été faite l'automne dernier dans la région de Marseille. La présence du frelon oriental, aussi dangereux pour les abeilles que son cousin, le frelon asiatique.
Bonjour Gérard Philippi.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes entomologiste, c'est-à-dire que vous êtes spécialiste des insectes et vous êtes le fondateur de Écotonia, un cabinet d'expertise naturaliste basé près d'Aix-en-Provence. Alors Gérard Philippi, on va remonter le fil de l'histoire ensemble, car c'est vous qui avez repéré les spécimens de frelons oriental en septembre dernier.
Alors c'est moi et une équipe, hein. On était trois, hein, donc avec mon ami Alain Couache et Bruno Gérès, qui est un spécialiste aussi des hyménoptères. Et la particularité qu'on a tous les trois, c'est que bon, on n'est pas tout jeune, donc on a fait pas mal de pays africains, on a bourlingué à travers le monde, et on a reconnu tout de suite la présence de ce frelon comme étant un frelon qui vient d'ailleurs, hein, un frelon qui est plutôt comment dire tropical, hein, puisqu'il vient des Balkans, voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de suite que ce frelon venait certainement d'arriver sur le territoire français.
Alors avec l'aide du Musée National d'Histoire Naturelle de Paris, vous avez réussi à trouver deux nids qui ont été neutralisés, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Bon, si vous voulez, on a fait d'abord une publication scientifique, hein, parce qu'on était sûr de nous. Donc on a fait très vite, hein, parce qu'on savait qu'on avait un devoir aussi de prévenir les autorités. Et donc j'ai aussi contacté, enfin le Muséum d'Histoire Naturelle a été contacté par la préfecture donc pour les alerter. Et Quentin Rome, qui est justement le correspondant du muséum, qui est spécialiste expert des hyménoptères, donc on a été mis en relation. Et pour lui faire gagner un petit peu de temps, on lui a donné les endroits, identifié les endroits où ont été vus les frelons, etc. Donc quand il est venu, je vous expliquerai après, mais on a mis en place une sorte de petite balise pour repérer les nids. Mmh. Et c'est comme ça que petit à petit, donc le muséum a trouvé le positionnement des nids de frelons, donc qui sont au nombre de 2. Et qui ont été détruits tout de suite après par le service concerné par la destruction des prédateurs comme ça, des espèces invasives d'insectes de la ville de Marseille.
Quand on voit l'expansion du frelon asiatique arriver à Bordeaux par bateau dans des pots en argile il y a 20 ans, il y a de quoi quand même s'inquiéter. Même si ces deux nids ont été neutralisés comme vous venez de l'expliquer, du coup vous êtes sur vos gardes.
C'est-à-dire que si vous voulez, on apprend un petit peu de ses erreurs. Hein. Je pense qu'à l'époque, l'entomologiste que je connais, hein, qui avait découvert le Vespa vellutina, donc le frelon asiatique, avait alerté à la mesure, hein, mais ça n'avait pas été pris tout de suite en compte. C'est ce qui fait que effectivement, ce sont des espèces qui sont excessivement prolifiques. dont les nids peuvent contenir jusqu'à 3-4 000 individus. C'est pour ça qu'ils sont si gros d'ailleurs, parce qu'on sait que sur une espèce de plateforme qu'on appelle galette, on peut retrouver au moins 300 larves. Il y a plus de 30 à 40 galettes par nid, donc c'est énorme. Ouais. Donc ça veut dire qu'effectivement, à partir du moment où l'expansion n'est pas maîtrisée dès le départ, eh bien, ça fait le fléau qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un prédateur qui s'est adapté et qui est prédateur donc d'abeilles et surtout des abeilles à miel, hein, celles qu'on connaît.
Alors venons-en justement à ces abeilles, à cette menace qui plane, ce frelon s'attaque aux ruches. Comment procède-t-il ?
Alors, on connaît très bien le mode de chasse du frelon asiatique, c'est-à-dire Vespa velutina. On est moins certain, en fin de compte, de l'écologie et surtout les habitudes du frelon oriental. Mais ce qu'on sait sur le frelon asiatique, c'est qu'il y a un individu toujours qui trouve une ruche et qui va déposer une goutte de phéromone très proche. Donc cette phéromone se dégage dans l'air et ça alerte toute la colonie qui est un peu plus loin. Donc ensuite, vous avez des soldats qui arrivent à 6, 7, 8, 9, 10 et qui se mettent en vol stationnaire devant la ruche. Et toutes les abeilles qui sortent, ben, ils les attrapent, ils les sectionnent avec les mandibules, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus une. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont capables, en l'espace de quelques heures, d'anéantir une ruche de 50 000 individus. Et ensuite, ils rentrent dans la ruche, bien entendu. Ils tuent la reine, ils emportent le couvain, le miel, enfin tout ce qu'il y a. Et ensuite, ils emportent tous les débris des individus qui ont été décapités. Ils emmènent ça dans leur nid pour nourrir leurs larves. Alors ça, c'est un phénomène qu'on connaît déjà. Ce phénomène n'existe pas en Asie parce que les abeilles là-bas ont eu l'habitude de préserver l'entrée de la ruche. Elles sont 400 ou 500, elles se mettent juste à l'entrée. Quand le frelon asiatique rentre dedans, elles leur tombent dessus, elles font une espèce de boule en sacrifiant bien sûr quelques abeilles. Mais le frelon ne supporte pas la hausse de température qui est à 45 degrés, va faire que le frelon asiatique va mourir cuit à l'étouffée. Et c'est un stratagème qui n'existe pas chez nos abeilles françaises.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que peuvent faire peut-être les apiculteurs ? Si les abeilles ne sont pas capables encore de se protéger, peut-être qu'elles vont s'adapter, mais les apiculteurs, eux, peuvent agir ?
Sur le frelon asiatique, il y a déjà beaucoup de techniques de piégeage qui existent. Hein. Ce sont des pièges qui ont une dimension, si vous voulez, d'entrée qui est adaptée à la taille du thorax du plus gros spécimen, en général les femelles, donc les reines. Donc, si vous voulez, quand le frelon rentre dedans, il ne peut plus ressortir. C'est comme ça qu'on les piège. Ensuite, pour le frelon oriental, puisque c'est ça qui nous intéresse, le frelon oriental a aussi cette réputation d'être un prédateur d'abeilles, à la base. Il ne fait pas de gros nids, comme on les voit, de façon sphérique dans les arbres, etc. On le trouve plutôt soit sous terre, soit dans des infractuosités rocheuses. Et là, ce qui a été le cas, c'est dans des vieux murs où il y avait des trous. Et ils se mettent à l'intérieur. Donc déjà, c'est plus difficile de les repérer. Je pense que les techniques de piégeage sont les mêmes, puisque les gens qui fabriquent ces pièges nous ont alertés. Donc j'ai aussi participé à leur donner les dimensions, si vous voulez, de certains individus pour qu'ils puissent régler leurs pièges. Ensuite, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, c'est un deuxième envahisseur hyménoptère qui peut avoir des conséquences, bien entendu, sur les apiculteurs et leur activité. Mais jusqu'à présent, on a trouvé deux nids, ils ont été éradiqués. Cette année, on va vérifier si, effectivement, c'était bien deux nids. S'il n'y en a pas plus, parce que ce qui est inquiétant, c'est que, si vous voulez, au printemps, toutes les femelles sont fécondées, donc sont aptes à essaimer de faire des nids. Et ça veut dire que cette année-là, comme il y avait, je pense qu'on avait recensé à peu près 150 individus à 200 individus, il est fort probable que d'autres femelles soient fécondées et au printemps de cette année aient pu se cacher, donc hiverner et sortir au printemps pour aller construire un nid quelque part. Et c'est ce qu'on doit vérifier assez vite. Voilà. Et après, le reste pour les éradiquer, c'est toujours les mêmes techniques de piège et de destruction.
Merci beaucoup Gérard Philippi d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes entomologiste et fondateur de Écotonia, un cabinet d'expertise naturaliste qui se trouve près d'Aix-en-Provence. Merci encore, très bonne journée.
Merci à vous.
Europe Matin. Fanny Marceau et Omblin Roche.
Il est 5h49, vous êtes bien sur Europe 1 et bien informé, le journal permanent Alban Le Prince.
Et voilà un projet qui fait beaucoup parler depuis hier. Le ministère de l'Intérieur envisage de ne plus retirer de points pour les petits excès de vitesse de moins de 5 km/h qui représentent plus de la moitié des infractions de ce type. Autre idée du gouvernement, totalement numériser les cartes grises et permis de conduire d'ici un an et demi, deux ans. Sur les routes justement, premier gros week-end de l'année avec 4 million d'automobilistes attendus chaque jour pour le pont de l'Ascension. Aujourd'hui encore, Bison Futé classe la journée rouge dans le sens des départs. Et puis en Ukraine, l'armée russe progresse toujours dans l'Est. Elle se retrouve maintenant aux portes de Severodonetsk, où la situation est extrêmement difficile selon Kiev, qui reproche à l'OTAN de ne strictement rien faire.
La culture gastronomique du jeudi. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Fanny. Bonjour Oblin. Bonjour à tous.
Bonjour Olivier. Vous nous parlez d'une spécificité du vignoble français qui n'est pas toujours facile à comprendre. Ce sont les classements.
Eh oui, alors premier grand cru classé, grand cru classé, grand cru, premier cru.
Ah oui.
Autant de notions qui peuvent figurer sur nos bouteilles de vin et dont on ne sait pas toujours à quoi elles correspondent. Et il faut bien dire que c'est là une jungle assez dense, puisque en fonction des régions, figurez-vous, que ça ne correspond pas forcément à la même chose.
Est-ce que cela distingue toujours les meilleurs vins ?
Bon, alors en théorie, oui. C'était l'idée, en tout cas, d'aider l'amateur à y voir plus clair en isolant soit les meilleurs vins, soit les meilleurs terroirs. Alors, ce sont les Bourguignons qui, les premiers, se sont attelés à créer un classement dès le XVIIIe siècle et qui s'est affiné au XIXe. La particularité bourguignonne, c'est que le classement est exclusivement fondé sur la notion de terroir, c'est-à-dire la parcelle qui sert à élaborer le vin. C'est elle qui est classée. Alors, prenons par exemple Gevrey-Chambertin, oui. Il y a le village. Ensuite, il y a le premier cru, il y en a 26, des nominations, les Castiers, la Vaux-Saint-Jacques, etc. Et ensuite, il y a 9 grands crus, ça c'est le haut du panier. On parle alors du Chambertin ou du Charme Chambertin, voilà deux exemples. En tout, il existe plus de 560 premiers crus en Bourgogne. Les climats de Bourgogne qui sont entrés en 2015, je vous rappelle, au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Et donc, à Bordeaux, le système de classement, lui, est très différent.
Oui, il n'a rien à voir à Bordeaux, vous l'avez dit. Il existe d'ailleurs 4 classements. Bon courage pour vous y retrouver. Il s'appuie sur des critères différents. À Saint-Émilion, par exemple, fondé en 1954, révisable tous les 10 ans. C'est un classement qui intègre à la fois le terroir, le savoir-faire, la qualité des vins et un certain nombre de paramètres. Il y a le classement des Graves, fondé en 1953, les Crus Bourgeois en 1932 et le plus connu, celui de 1855, qui classe les meilleurs vins du Médoc et de Sauternes. Ce classement est né à la demande de Napoléon III pour l'exposition universelle de 1855, afin de permettre une hiérarchie des vins. Il a été établi sur la base des prix des vins à l'époque. Plus c'est cher, meilleur c'est. On a considéré ça comme ça. Alors 5 niveaux, de premier à 5e grand cru classé. C'est un classement de marque. Le terroir n'est pas concerné. C'est uniquement le château qui l'est. Et donc, si l'assiette foncière évolue, eh bien, le château a le droit d'intégrer des parcelles dans son assiette foncière. Il y a une seule révision notable de ce classement, en 1973, avec l'accession de Mouton Rothschild au rang de premier grand cru classé. Et ce classement comporte 61 châteaux dans le Médoc et 27 à Sauternes et Barsac.
C'est complexe quand même. Il y a d'autres régions qui ont aussi des classements, Olivier ?
Bah oui, tant qu'à faire, pour complexifier la chose, en France on aime bien ça. Alors la Champagne, elle se calque un peu sur le modèle bourguignon avec la notion de premier de grand cru, mais ça n'apparaît pas systématiquement sur les bouteilles. L'Alsace, avec ses grands crus, il y en a 51, au nom souvent un peu compliqué à prononcer. Ce sont les meilleurs terroirs qui ont été identifiés dans 47 communes, classement de 1975, et qui ne représente en fait que 10% du vignoble, de vignoble classé. Puis en 1955, naissait Grand Cru classé de Provence, malgré l'opposition des Bordelais, qui n'aimaient pas trop de voir ça. Il y avait 23 domaines à l'origine, ils sont 18 aujourd'hui.
Donc on le voit, la plupart de ces classements sont anciens. Est-ce qu'on peut encore s'y fier ?
Alors la mention Grand Cru ou Cru classé fait vendre, c'est certain. Pour autant, ce n'est pas une garantie absolue de qualité. Vous avez de grands vignerons qui produisent des vins fantastiques sur des terroirs qui ne sont pas classés, et à l'inverse, des vignerons, disons, moins investis, qui à la des vins quelconques sur des grands crus. L'homme demeure déterminant et même s'il existe évidemment une hiérarchie entre les terroirs, tous ne se valent pas, c'est évident. Les choses pourraient être amenées à bouger dans les années à venir, ne serait-ce qu'avec le réchauffement climatique.
Faites confiance à votre caviste.
Et à votre palais surtout.
Merci Olivier.
Merci Olivier. On rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer donc avec modération.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
5h58, dans un instant la météo, le journal et Xavier, Jace ou encore Eva. Au total, 21 noms, ceux des victimes de l'école élémentaire Rob Duvalde.
Oui, petite ville du Texas désormais au centre du débat sur le contrôle des armes aux États-Unis. Débat sociétal éminemment politique où la NRA, la National Rifle Association, le lobby des armes, exerce une pression constante. On en parle à 6h10 avec le vice-président de l'association France-Amérique, Jean-Claude Beaujour. Et juste après, votre partition, Omblin.
Les Beatles et leur producteur George Martin enfermés 130 jours dans le studio Abbey Road à Londres.
What do I do when my love is away? Does it worry to be
Il y a 55 ans sortait Sgt Pepper au Royaume-Uni, l'album bien sûr iconique des Beatles. Rendez-vous dans 20 minutes.
Mais d'abord la météo, Anissa Haddadi, le calme mais tristounet hein, ce jeudi de l'Ascension.
Ben oui, c'est un peu triste effectivement, on a un ciel très nuageux sur de nombreuses régions, alors des Pays de la Loire à la Normandie, c'est dans le nord-ouest hein, qu'on aura le plus de nuages, des Pays de la Loire à la Normandie c'est très gris, cet après-midi on peut espérer quelques éclaircies sur le Finistère, des Hauts-de-France à l'est hein, jusqu'en Alsace c'est très gris. Ce matin, ça va légèrement se dégager dans l'après-midi. En région parisienne, c'est très mitigé. Ça veut dire qu'on commence la journée avec un plafond gris très épais au-dessus de la tête. Et puis, on aura quelques éclaircies. Mais alors vraiment, elles vont être difficiles. Hein. Le soleil, il va avoir du mal à percer ce plafond. Dans le sud-ouest, bah là, on garde un ciel très couvert toute la journée. Alors, les éclaircies, elles sont quasiment inexistantes. De l'Auvergne à la Méditerranée, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On a un ciel bien plus dégagé avec un soleil radieux, avec toujours du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 70 km/h. Et peut-être quelques gouttes sur le Var et l'arrière-pays provençal. 8 à 19 degrés ce matin et cet après-midi, on a des températures qui sont tout juste de saison. 17 à Cherbourg, 20 à La Rochelle, 22 à Saint-Étienne et Bordeaux, 23 à Paris. Dans le sud, c'est agréable. 27 à Nice, 29 à Marseille et 30 pour Montpellier.
On l'espère quand même. Hein. La pluie dans le Var, ça serait quand même pas mal.
Oui, mais ça sera vraiment très léger. Hein. Quelques gouttes à peine.
Ce sera déjà ça de prix. Merci beaucoup Anissa. Vous écoutez Europe 1. Très bon début de journée à tous. Nous sommes le jeudi 26 mai et il est 6h. Des millions de Français se réjouissent de partir pour le week-end de l'Ascension aujourd'hui, mais certains vont peut-être déchanter. Restaurants, hôtels et campings du pays sont déjà en flux tendu avant même leur arrivée. Dans de nombreux établissements, on craint de ne pas avoir assez de bras pour tous les accueillir, vous l'entendrez. Grande répétition générale avant les grandes vacances et premier week-end de campagne pour les législatives. Tout le monde est sur le pont, tout le monde, sauf le gouvernement soumis au devoir de réserve. Une règle un peu floue, les détails dans ce journal. Et puis on partira à la rencontre d'une réfugiée ukrainienne à Paris. De loin, elle continue d'aider son pays en donnant des cours à distance. Reportage en fin d'édition.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
Et le journal de 6h, c'est avec Johan Tritz. Bonjour Johan.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes peut-être déjà dans votre voiture pour éviter les bouchons ou en train de vous préparer au départ pour profiter de ce long week-end de l'Ascension. Comme vous, des millions de Français vont affluer sur les sites touristiques du pays. Restaurateurs, hôteliers ou encore gérants de camping craignent cette vague car il manque des bras pour tous les accueillir. Reportage sur la côte normande avec Clément Barguin.
Tous les emplacements sont réservés, les mobilhomes loués. Ce camping de Deauville affiche complet pour le week-end de l'Ascension. Mais problème, il manque du personnel. Patsy, la gérante, recherche désespérément un réceptionniste.
Ça fait 2 semaines j'ai mis une annonce pour toute la saison. Nous n'avons pas de CV dans notre boîte mail. Ça va être un peu dur à gérer.
Des professionnels bien obligés de se réorganiser. Dans cet hôtel de charme de Villerville, il manque 4 employés. Alors Olivier, le directeur, a pris une décision. Décision radicale, fermer le restaurant 2 midi par semaine.
Si vous fermez, vous gagnez du temps et ce temps-là est reporté lorsque les clients sont présents. Nous, on se remet en question tous les jours, à savoir peut-être qu'un jour, il faudra que le client aille chercher son assiette lui-même en cuisine. On en arrive là.
Mais dans cet autre restaurant de bord de mer, pas le choix, il faut assurer le service. Ici, tous les salariés font des heures supplémentaires, un rythme difficile à tenir pour Manon, la manager.
On n'a pas nos midis, on n'a pas de soirée non plus. Le problème, c'est que moins on trouve de monde, plus on fait d'horaires et à un moment donné c'est sûr que ça va craquer quoi.
Manon qui espère recevoir des CV d'ici l'été sur la côte normande, des milliers d'emplois saisonniers sont toujours à pourvoir.
Clément Barguin en Normandie pour Europe 1. Journée rouge évidemment attendue sur les routes, prenez vos précautions.
Attention aussi à lever le pied, les excès de vitesse toujours nombreux pour cette répétition générale avant les vacances. Europe 1 vous l'annonçait hier, les sanctions pourraient bientôt être allégées.
Oui, certains ont connu la mésaventure d'être sanctionnés pour un court dépassement des limites. Le ministère de l'Intérieur réfléchit à ne plus retirer de points pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h. Cela correspond à plus de 60% des contraventions sur la route. Une bonne nouvelle pour les automobilistes, un danger pour les associations de prévention routière.
Et ce jeudi, c'est aussi le premier grand week-end de campagne pour les législatives. Il n'y aura pas de repos en politique, sauf pour certains ministres.
Oui, c'est silence radio depuis le début de la semaine. Les membres du gouvernement sont entrés dans leur période de réserve en attendant les élections. Le but, ne pas influencer l'opinion, mais cette règle est un peu flou et cela arrange bien l'exécutif. Arthur Delaborde. Pas de déplacement, pas d'annonce, ni même de défense du bilan. En théorie, avec la période de réserve, les membres du gouvernement sont privés de tout ce qui pourrait avoir un retentissement médiatique dans le cadre de leurs fonctions. Ils doivent rester purement factuels lors de leurs interventions publiques, ce qui en pratique se révèle presque impossible, d'autant que les règles détaillées dans deux circulaires de Matignon sont floues et que le contrôle de leur application par le Conseil constitutionnel est pratiquement inexistant. Dans les faits, les ministres reconduits comme Bruno Le Maire et Gérald Darmanin conserve donc le champ libre, mais l'exécutif incite surtout les nouveaux entrants à respecter la réserve pour effectuer leur premier pas. Une contrainte sur le papier qui se transforme en véritable atout pour eux. Ils peuvent en effet prendre leur marque avec plus de sérénité, sans tomber dans les pièges médiatiques et les erreurs classiques des débuts d'exercice. Une sorte de bouclier jusqu'aux législatives.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
La douleur et la consternation toujours très vives ce matin aux États-Unis.
Vous l'entendez, la cérémonie cette nuit à Uvalde, au Texas, en mémoire aux 19 enfants et aux deux enseignants tués dans une école primaire. Joe Biden doit se rendre sur place dans les prochains jours. Un drame qui secoue l'Amérique et qui relance la bataille entre les pros et les anti-armes. C'est vers le Sénat que les yeux se tournent aujourd'hui, où une loi pour un meilleur contrôle est bloquée depuis plus d'un an.
Et dans le même temps, les États-Unis, mais aussi l'Europe, appelaient à livrer plus d'armes en Ukraine.
Oui, un appel à l'aide de Volodymyr Zelensky au forum de Davos. Son armée qui fait aujourd'hui face à une lourde offensive dans l'est du pays. La ville de Severodonetsk est visée par Moscou, cité en grande partie détruite et dans un état similaire à Mariupol. Tombé il y a quelques jours, c'est le dernier bastion ukrainien de la région de Louhansk.
L'ONU qui a publié ses derniers chiffres sur le conflit. Plus de 6,5 millions d'Ukrainiens ont fui le pays depuis le début de l'offensive russe il y a 3 mois, dont 85 000 en France.
Oui, c'est le cas d'Anna, professeure de français en Ukraine. Elle a fui Odessa pour trouver refuge à Paris. Et c'est depuis son logement qu'elle donne des cours à d'autres Ukrainiens. Océane Théard est allée à sa rencontre.
Une planche sur des tréteaux, un ordinateur, le bureau improvisé d'Anna dans un coin de son studio. La jeune professeure ukrainienne aux longs cheveux roux a commencé les cours à distance 4 jours après le début de la guerre.
Les cours en ligne pour les élèves ukrainiens, c'est leur point de stabilité de leur vie normale. C'est un échange. C'est pas que j'arrive dans une salle, j'ai 45 minutes, voilà, on va apprendre le futur proche. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu es prof, tu es partie de leur vie.
3 élèves de 11 à 12 ans sont connectés aujourd'hui. Parmi eux, Margherita, le front plissé par la concentration. Elle récite ses conjugaisons depuis sa petite chambre d'Odessa.
Les cours de français, c'est une des choses qui me rendent le plus heureuse en ce moment. C'est super bien organisé, on apprend vraiment plein de choses. Ça m'aide beaucoup à supporter la situation.
45 minutes plus tard, le cours virtuel se termine. Le cœur serré, Anna quitte ses élèves. Avec l'espoir, sourit-elle de les retrouver bientôt dans une Ukraine en paix.
Un reportage d'Océane Théard pour Europe 1.
Et puis un petit mot de musique. La chanteuse Zazie est de retour, elle va remonter sur scène.
Zen, restons zen, conseil que l'on peut donner aux nombreux automobilistes aujourd'hui en ce week-end d'attention. Chanson que va pouvoir entendre aussi en live en 2023. Zazie vient d'annoncer 2 dates de concert, le 2 et 3 juin prochain à Antibes, en 2023 évidemment. Suivra ensuite une tournée, mais pas d'informations pour l'instant.
Merci beaucoup, on a hâte de redécouvrir Zazie. C'était le journal de Johan Tritz, merci Johan.
Il est 6h07 et on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et on commence par Roland Garros avec une Française qualifiée pour le 3e tour.
Oui, Diane Paris s'est débarrassée de la Colombienne Osorio hier soir. Victoire 6-3-6-3 à 19 ans. C'est la première fois qu'elle accède au 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem.
C'est mon meilleur résultat en Grand Chelem pour l'instant. Après, ça me donne vraiment envie d'aller loin dans ce tournoi et de continuer à gagner des matchs. Donc, je compte pas m'arrêter là en tout cas.
Diane Paris au micro de Cédric Chasseur. Roland Garros, c'est fini en revanche pour Grégoire Barrère, Elsa Jacquemot, Richard Gasquet et Corentin Moutet. Le jeune francilien a été sèchement battu hier soir par Raphaël Nadal en 3-7, mais il gardera en mémoire ce match contre son idole de jeunesse.
Quand on commence et qu'on joue dans sa chambre sur le mur, on peut pas imaginer qu'un jour ça sera nous à la télé. Si jamais on prend un peu de recul et que je laisse de côté la déception de la défaite, c'est incroyable de vivre ça.
Nadal qui accède donc au 3e tour, tout comme Djokovic ou encore Carlos Alcaraz, qui s'est fait très peur hier. Le prodige espagnol a dû sauver une balle de match face à son compatriote Ramos Vinolas.
5 bleus sur les courts aujourd'hui.
Oui, autant de chances de rejoindre Diane Paris au 3e tour. On suivra Gilles Simon face à l'Américain Johnson, Hugo Gaston contre l'Argentin Cachin ou encore Alizé Cordé face à la Lettonne Ostapenko.
On passe au football, Martin, avec deux clubs qui rêvent de Ligue 1.
Oui, Auxerre qui rêve d'y revenir 10 ans après et Saint-Etienne qui rêve d'y rester. Première manche du barrage d'accession à la Ligue 1 ce soir à l'Abbé des Champs. Après avoir récupéré un club dernier au cœur de l'hiver, l'entraîneur des Verts, Pascal Duprat, est persuadé qu'il peut aller au bout de sa mission maintien.
Mais en fait, c'est pas un miracle, c'est de la résilience. Ce club mérite un meilleur classement que 18e, mais il se trouve qu'il y a la possibilité de le laisser en Ligue 1. À la fin de cette double confrontation, eh bien j'espère qu'on aura réussi là où tout le monde pensait qu'on allait échouer.
Auxerre Saint-Etienne, c'est à 19h. Match retour dimanche à Geoffroy Guichard.
Dans le reste de l'actualité foot, Martin.
Le grand chelem de José Mourinho, un premier entraîneur à remporter les trois Coupes d'Europe, C1, C3 et C4, la Ligue Europa Conférence. Sa Roma a battu le Feyenoord Rotterdam hier soir 1-0. Et puis le possible adieu d'un géant, Zlatan Ibrahimovic, a fait opérer d'un genou hier. Il sera absent 7 mois minimum. Mais à 40 ans passés, difficile d'imaginer le tout frais champion d'Italie de retour à son meilleur niveau.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on essaie de comprendre comment les États-Unis en sont arrivés là, pourquoi ils ont tant de mal à en sortir 213 fusillades de masse depuis le début de l'année. Le vice-président de l'association France-Amérique, Jean-Claude Beaujour, est avec nous, à tout de suite.
Europe 1. Fanny Marceau et Amblin Roche.
Il est 6h11, merci d'écouter Europe 1. Ils allaient seulement à l'école, comme des millions d'enfants à travers le monde, mais aux États-Unis, même assis à son pupitre, on peut être victime d'une fusillade. 19 enfants et 2 adultes ont été tués mardi dans l'école élémentaire d'Uvalde au Texas. Le tireur, abattu lui aussi, n'avait que 18 ans.
Bonjour Jean-Claude Beaujour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes le vice-président de l'association France-Amérique. On est encore assommé par cette tuerie, une de plus, la 213e depuis le début de l'année aux États-Unis. 213, c'est plus que le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier. Comment explique-t-on une telle violence dans ce pays ?
Je crois qu'on peut déjà se poser la question, comment expliquer qu'après une telle violence, on ne parvienne pas à aller au-delà de la réglementation existante. Vous savez que l'obsession aujourd'hui d'un certain nombre de groupes pour pouvoir justifier la libre utilisation, la quasi-libre utilisation des armes à feu, c'est de dire qu'il y a le second amendement qui garantit l'usage et la possession des armes. Oui, vous dites un nombre d'attaques par armes à feu considérable, des enfants. Vous parlez d'aujourd'hui, mais souvenez-vous, il y a maintenant quelques années, en 2012, il y avait déjà eu le président Obama avec l'alarme et on avait dit plus jamais ça, comment est-ce possible ? Une fois l'émotion passée, je crois que chacun finalement se dit, ben, au fond, le fait de posséder une arme est encore la meilleure façon pour moi de me protéger contre une éventuelle violence. Vous savez, on est vraiment dans une situation où c'est le serpent qui se mord la queue. Pour pouvoir lutter contre la violence, on ne se dit pas qu'il va falloir travailler contre le mal de la violence à bien des égards, le trafic de drogue, les inégalités sociales, une histoire qui est compliquée. Les États-Unis se sont bâtis sur une histoire qui est compliquée, l'histoire de la ségrégation, les confrontations entre communautés religieuses au départ. Bref, toute une série d'éléments qui expliquent cette violence, qui l'explique, qui ne la justifie pas, attention, qui l'explique et qui ne la justifie pas, et qui font que plutôt que de lutter contre cela, les inégalités sociales, eh bien, on préfère se dire, on va s'armer, ça sera mieux. Réaliser un peu qu'un responsable républicain réponde face à cette attaque à arme à feu, bien oui, c'est bien la preuve qu'il faut que les gens aient des armes pour pouvoir se défendre. Les professeurs devraient avoir des armes dans les écoles pour pouvoir se défendre. C'est le monde à l'envers.
Complètement à l'envers. Le tireur n'avait que 18 ans. Il avait reçu une arme pour son 18e anniversaire. Bon, vu d'ici, ça semble surprenant comme cadeau, mais ça dit beaucoup de la culture des armes aux États-Unis.
Absolument. Je rappelle que le tueur était un adolescent. En français, on dirait un gamin.
Un gamin qui tue des enfants.
Qui est capable de tuer sa grand-mère, on le rappelle, d'avoir suffisamment d'armes, d'en avoir la manipulation. Je ne sais pas si vous avez ou vos auditeurs ont déjà essayé d'approcher une arme, mais je crois que même le maniement d'une arme est compliqué. Pouvoir tirer et tirer juste, c'est extrêmement compliqué. C'est cruel d'en arriver à ces éléments techniques, mais pour se dire qu'il a pu être suffisamment rodé, c'est qu'il y a cette culture de l'utilisation de l'arme, et il est arrivé que l'on constate que même des parents dont les enfants avaient été blessés par arme à feu, blessés ou tués à arme à feu, eh bien, eux-mêmes avaient acheté des armes. Donc, oui, cette culture de la possession de l'arme est profondément ancrée. Cela dit, ça n'est pas insurmontable. On a vu l'expérience, puisque maintenant, il faut essayer d'aller positivement de l'avant. On a vu l'expérience d'autres pays, par exemple la Nouvelle-Zélande, où il y a une culture de l'utilisation de l'arme, de la chasse, etc. Par la réglementation, la Nouvelle-Zélande est parvenue à réduire considérablement les accidents et les tueries par arme à feu. On pense par exemple aux États-Unis, si on faisait ne serait-ce que le fameux background check, qui est en réalité, on veut savoir qui est la personne qui fait une demande d'armes, parce que sans entrer dans le dossier, parce que là encore on ne le connaît pas, les faits sont trop récents, mais pour qu'un enfant de 18 ans en arrive à tuer sa grand-mère, c'est qu'il devait y avoir une part probablement de mal-être, de quoi que ce soit. Est-ce que s'il y avait eu une enquête, peut-être qu'on aurait décelé un comportement suspect, une ambivalence dans le caractère. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Alors, ce ne sont que des hypothèses. Eh bien, effectivement, peut-être qu'on aurait pu, je dis bien peut-être qu'on aurait pu prévenir, parce que dans ce type de situation, on est vraiment dans des hypothèses et hypothèses. Donc voilà, c'est ce qu'on peut regretter, parce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, qui sont décédés. C'est juste insupportable pour tout parent, toute personne, tout humain normalement constitué, parce qu'il y a avant tout l'instinct de survie.
La solution, elle est éminemment politique. Hein. Le président américain et sa vice-présidente Kamala Harris ont tout de suite exprimé leur colère et leur désarroi. Et c'est tout, parce qu'en fait, ils ne peuvent rien faire de plus aujourd'hui.
Alors, pour la bonne compréhension, on n'imagine pas, lorsqu'on parle du président en France, du président de la République, on sait que le président de la République a beaucoup de pouvoir. Je dis souvent que, contrairement sur le plan domestique, le président des États-Unis a beaucoup moins de pouvoir que le président de la République française. Le président des États-Unis est tenu en quelque sorte par son Congrès. Le Congrès, il y a une très petite majorité démocrate, et donc il y a une confrontation idéologique sur ce sujet. Il y a une confrontation idéologique entre les démocrates et les républicains. Et ça, c'est la première chose. Donc, si quelles que soient les mesures que pourrait prendre le président américain, il serait en quelque sorte, je recherchais mon mot en français, il serait
bloqué de toute façon par les républicains.
Il serait bloqué par son Congrès. Mm-hmm. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a une Cour suprême qui tranche en général les contestations judiciaires, qui est une Cour suprême conservatrice. Donc le problème,
ce sont les républicains, ce sont eux qui font barrage.
Il y a beaucoup de républicains. Alors attention, c'est pas aussi lisse que cela. Vous avez aussi les démocrates qui sont favorables au port d'armes. Mais ce qu'on peut dire, on dira plus généralement, c'est le Congrès. Pourquoi ? Parce que vous avez la NRA, l'organisation. Le lobby des armes. Pour avoir un chiffre, la NRA, le lobby des armes, c'est 5 millions d'adhérents. C'est un budget entre 300 et 400 millions de dollars. Et donc, ce sont des gens qui ont la possibilité, ils sont très influents à Washington, très influents dans les États, ils financent les campagnes, ils font des campagnes de sensibilisation, ils militent en quelque sorte, ce sont de vrais militants. Donc, vous avez la NRA qui est extrêmement puissante. Donc, le président, et souvenez-vous que Barack Obama s'y est essayé, président des États-Unis est véritablement confronté à une difficulté politique. Peut-être que l'une des pistes de solution serait d'en appeler directement au peuple américain. Mais là encore, lorsque vous avez 5 millions d'adhérents, lorsque vous avez un groupe qui est extrêmement activiste, encore faut-il pouvoir convaincre il faudrait qu'une très, 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 très large majorité d'Américains soit convaincue. Mais là encore, c'est extrêmement difficile parce que je vous dis, souvenez-vous, on a eu Buffalo il y a quelques jours à peine.
Il y a 10 jours à peine. Merci beaucoup, Jean-Claude Beaujour, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 pour décrypter cette actualité. Je rappelle que vous êtes avocat et vice-président de l'association France-Amérique.
Europe Matin.
Fanny Marceau et Amblin Roche.
6h19 sur Europe 1, les titres, Alban Le Prince.
Gérald Darmanin réclame des excuses. Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, fait appel devant le Conseil d'État. Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu hier l'autorisation du burkini dans les piscines municipales. Des plages bondées, voilà ce qui attend les Français qui font le pont de l'Ascension. 4 millions d'automobilistes sont attendus chaque jour sur les routes ce week-end. D'ailleurs, Bison Futé voit encore la journée en rouge dans tout le pays. L'heure est au recueillement au Texas au lendemain du massacre de 19 enfants dans leur école d'Uvalde. Hier, le puissant lobby pro-armes NRA s'est dédouané de toute responsabilité en dénonçant l'acte d'un criminel isolé et dérangé.
La partition d'Omblin. Il y a 55 ans, les Beatles sortaient le premier album concept de l'histoire du rock.
Oui, de chef-d'œuvre psychédélique au nom à rallonge, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Un mot du contexte, nous sommes en 1967, l'année du Flower Power.
Oui, le mouvement hippie va atteindre son paroxysme lors du festival de Monterey en Californie qui inaugure le Summer of Love, l'été de l'amour. Il faut s'imaginer à cette époque, la jeunesse américaine aux cheveux longs est en rupture avec les valeurs parentales. On milite en faveur de l'émancipation des mœurs. En Angleterre, c'est l'apogée du Swinging London avec ses couleurs flashy, ses mini-jupes des Britanniques qui se balancent sur les mélodies rock de plus en plus complexes. En 1967, les Beatles laissent tomber la coupe au bol et se font pousser la moustache.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies.
Il faut dire que les Beatles sortent de 4 longues années d'hystérie.
La Beatlemania les a éreintés, les tournées harassantes. C'est terminé, ils vont se concentrer sur la création désormais. Les Beatles souhaitent surtout retrouver le cocon protecteur d'un studio d'enregistrement.
Et ils vont y rester enfermés pendant 129 jours.
700 heures de session, le temps nécessaire pour se rapprocher de la perfection. Ce studio Abbey Road à Londres se transforme en laboratoire sonore expérimental. Il n'est pas question cette fois d'enregistrer des morceaux qui vont s'enchaîner, mais de créer une œuvre complète, de raconter une histoire, quitte à perdre quelques fans.
Tout au long du processus créatif de Sgt. Pepper, Paul McCartney s'installe à la place du leader.
Oui, c'est vrai que c'est lui qui arrive avec l'idée générale et il propose d'inventer un groupe imaginaire, une fanfare psychédélique avec des uniformes colorés. Il faut savoir que Paul McCartney a été comme challengé par le groupe américain les Beach Boys qui un an plus tôt ont produit le disque ambitieux et hors norme Pet Sounds. Sgt. Pepper est clairement la réponse des Beatles aux Beach Boys. Et pour les aider dans leur tâche, ils vont pouvoir compter sur un cinquième homme, le producteur et magicien du son, George Martin.
Accompagnés donc par George Martin, les Beatles se livrent à des expérimentations.
Oui, en utilisant des instruments curieux comme la petite trompette piccolo ou l'harmonium. C'est comme un petit orgue, hein, mais sans tuyaux. On mixe à tout va, on compresse, on colle et quelques voix saturent. La pochette de l'album est à l'image des pistes qui s'enchaînent. Un collage réalisé par le père du pop art anglais, Peter Blake, avec les visages de Bob Dylan, Karl Marx ou Marilyn Monroe. Sgt. Pepper marque un tournant majeur non seulement dans la musique pop, mais également dans la carrière des Beatles.
Try a little help from my friends. Do you-
With a little help from my friends, extrait de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l'album concept des Beatles qui fête ses 55 ans aujourd'hui. À l'origine, il devait sortir partout dans le monde le 1er juin 1967, mais la maison de disques EMI a avancé la parution au Royaume-Uni, où il a été disponible dès le 26 mai 67, privilège offert au sujet de Sa Majesté. Les Américains, eux, ont dû attendre une semaine avant de pouvoir l'écouter.
Dernière revanche sur les Beach Boys.
Exactement.
Merci beaucoup, Omblin. Vous restez avec nous. La matinale se poursuit avec Lionel Gougelot dans un instant. À tout de suite.
Europe Matin.
6h27. Passez une excellente matinée à l'écoute d'Europe 1.
Et on vous retrouve demain dès 5h.
Évidemment.
Bonjour, Lionel Gougelot.
Bonjour, ma chère Fanny. Bonjour, Omblin.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.